Oui, rebonjour après la pause. Ben, on est de retour avec un sujet qui est difficile, mais qui, c'est peut-être ma première réaction. Je ne veux pas paraître pessimiste par rapport à la nature humaine. Non, mais moi, ça ne me surprend pas. Voilà. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Isabelle Daigneault, psychologue, professeure titulaire à l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Daigneault.
Bonjour. Merci de l'invitation.
Ah, ça nous fait plaisir. Les études que vous menez avec vos collègues démontrent que les jeunes qui vivent avec une déficience intellectuelle subissent beaucoup plus d'abus sexuels sous toutes sortes de formes, et en plus de souffrir davantage, évidemment, des conséquences de ces lourds traumatismes. Comment vous avez mené d'abord votre étude, juste pour être certain qu'on... On ne parle pas au travers de notre chapeau. Dieu sait que ce n'est pas le cas.
Bien, c'est une étude vraiment novatrice, là, je dirais. Donc, on a corrigé beaucoup de défauts des études antérieures.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a, on est allé dans les dossiers de la DPJ, puis les dossiers de la RAMQ, ministère de la Santé et des Services sociaux, recueillir des données administratives là, qui existaient déjà. Donc, sur une période de 10 ans, là, tous les signalements fondés en abus sexuels dans la région de la ville de Québec. Donc, c'est une petite étude pilote, là, juste pour tester nos hypothèses. Et on a près un peu moins de 1000 enfants là, qui avaient des signalements qui ont été jugés fondés en abus sexuels durant cette période de 10 ans-là. Puis, on a constitué un groupe de comparaison à parier, donc c'était 882 enfants, là, dans le fond, de jeunes abusés, d'un autre groupe de jeunes qui vivaient sur le même territoire, donc autour de la ville de Québec, qui étaient nés, donc pour chaque enfant abusé, un autre enfant qui est né le même jour, pas le même jour, le même mois, la même année, qui avait le même sexe enregistré là, donc à la RAMQ, puis on a comparé, dans le fond, les problèmes de santé, puis la déficience intellectuelle de ces deux groupes-là. C'est ça qui nous a permis de conclure là, que parmi le groupe de jeunes abusés, il y avait 3,5 fois plus d'enfants qui avaient une déficience intellectuelle
D'accord.
que dans le groupe de la population générale.
D'accord.
Notamment.
En fait, on peut dire que toute autre chose étant égale, les enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle sont 3 fois, presque 4 fois plus susceptibles de subir des abus. Et quand on parle d'abus sexuels, est-ce qu'on parle uniquement physique ou de violence ou sous d'autres formes ou... Est-ce que c'est littéral?
Littéral, c'est-à-dire que ça varie. Là. Il y a des formes d'abus sexuels là, qui sont retenues à la DPJ qui vont être des attouchements sans pénétration, par exemple.
D'accord.
Mais,
ouais. C'est terrible, ça. Moi, ça...
Oui.
C'est à désespérer la nature humaine.
De la nature humaine.
Ouais, mais c'est sûr que les prédateurs partout dans le règne animal s'en prennent toujours aux plus faibles. Alors, c'est le même pattern ici.
C'est une des hypothèses, là, effectivement. Il y a deux hypothèses. Disons, une étant que peut-être que les enfants qui ont une déficience intellectuelle, comme ils ont plus de services, il y a plus d'adultes professionnels autour d'eux, peut-être qu'ils sont davantage signalés.
C'est vrai.
Clairement, là, ce ne serait pas la seule hypothèse. Là, l'hypothèse de la vulnérabilité est celle qu'on retient le plus souvent, là, c'est-à-dire que les agresseurs qui souhaitent avoir des relations sexuelles, des contacts sexuels avec des enfants vont chercher ceux qui sont les plus vulnérables. Là.
Oui, tout à fait. Et qui sont souvent les moins susceptibles de pouvoir les dénoncer aussi. Parce
Exactement.
Que ça doit être une problématique importante, ça, en déficience intellectuelle, que l'enfant puisse comprendre la gravité je dirais, l'interdit de ce qui arrive. Là,
Exactement.
Sans culpabiliser, là, mais que c'est quand même pas correct de ce qui se passe. Ouais.
Oui, tout à fait. Ben, c'est probablement un des aspects qui les rend vulnérables, justement, là, que les agresseurs vont croire que ils porteront pas plainte ou ils vont pas les dénoncer ou que s'ils le font, ils seront peut-être moins crus là, que d'autres enfants.
Il y a aussi, comme vous disiez, la fréquence des contacts, souvent des enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle. Comme vous dites, ils sont dans des milieux extra-familiaux.
Exact.
Ça peut, avec beaucoup de gens qui les connaissent peu ou pas, alors, il y a cette distanciation aussi qui peut-être est un facteur d'augmentation du risque. Là.
Parce qu'on voit, dans la population générale, on voit le risque augmenter chez les enfants au fur et à mesure que ceux-ci sont davantage en contact avec des étrangers.
Oui.
Même si le plus souvent, les agressions sont aussi intrafamiliales, c'est pas qu'à l'extérieur. Mais donc, oui. Pour les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles, effectivement, le fait d'avoir des adultes qui en prennent soin, donc moins de supervision parentale, on pourrait dire.
Oui, d'accord.
Dans certains contextes, peut les placer plus à risque, là, effectivement.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des moyens pour qu'est-ce qu'on peut faire? Comment le système les protège ou les mécanismes de dénonciation, d'intervention? Ça me semble, il me semble terriblement vulnérable et presque assis au milieu de la route là, dans le trafic.
Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Dans le fond, c'est votre question. On en est même juste à commencer à documenter qu'est-ce qui est fait. Oui. Là. Nous, de ce qu'on voit pour l'instant, c'est que très... D'abord, on avait très peu de connaissances là, sur ce plus grand risque-là, les conséquences, etc. Donc, on commence comme assez récemment à avoir des bonnes connaissances sur le sujet, même si ça peut être assez évident. Là, comme vous le dites, vous n'êtes pas surpris d'apprendre ça. Mais on constate donc qu'il y a très peu. Déjà, il y a peu d'interventions, par exemple, d'éducation à la sexualité. Là, on vient de recommencer au Québec. C'est assez récent qu'on a remis sur la table là, des cours d'éducation à la sexualité. Mais ceux qui sont existants à l'heure actuelle ne sont pas adaptés pour les jeunes qui ont une déficience intellectuelle ou d'autres problèmes de développement. Donc, en général, le peu qui est offert ne leur est pas offert à eux.
Oui.
Nous, avec notre groupe, avec mes collègues Geneviève Paquette notamment et Jacinthe Dion, on a d'autres fonds de recherche sur lesquels, avec lesquels on commence à documenter les interventions, les services, etc. Donc, il y en a peu, ça c'est la conclusion, mais je viens d'apprendre là, récemment que la Fondation Marie-Vincent, qui est à Montréal, là, qui offre des services aux jeunes
qui est dans ce créneau-là, tout à fait.
Exact. Eux ont commencé là, à développer, ils appellent ça le programme VOIS, le VOIES. Ils ont des petites capsules vidéo qui ont été développées, mais ils font un projet pilote là, l'hiver qui s'en vient justement auprès d'intervenantes professionnelles qui interviennent avec les jeunes qui ont des besoins particuliers, donc incluant les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles. Puis ils vont commencer à former les intervenants, puis éventuellement peut-être même là, les parents à comment on fait une bonne éducation à la sexualité là, qui peut être approprié pour eux, là, dans le fond, à leurs besoins.
Exact. Parce que c'est hors de notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est un autre tabou, comme quoi les personnes en situation de handicap n'ont pas de sexualité.
Exact.
Ça, c'est comme un autre truc à déboulonner. Mais voilà, et ça a des conséquences, ces sévices-là qui sont subis. Ça va marquer, mais de façon parfois presque invisible, la vie de ces jeunes-là.
Bien, si on ne le documente pas, effectivement, là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a documenté les diagnostics là, qu'on trouvait dans à la Régie de l'assurance maladie du Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, là, donc des consultations. Donc, quand les enfants vont consulter, on peut voir les diagnostics qui les ont menés à consulter, donc de problèmes de santé physique, de santé mentale. On voit dans les deux cas là, que les jeunes... Bien, notre étude, elle est limitée, là, c'est-à-dire qu'elle nous donne l'impression qu'ils ont probablement plus des conséquences plus néfastes au niveau de la santé physique et de la santé mentale, là, deux fois plus, disons, de consultations pour ces problèmes-là. Mais notre échantillon, on avait presque 2000 participants, mais c'était quand même trop petit pour faire les analyses qu'on voulait faire. Donc, on n'a pas terminé là, de tester ça, mais l'impression que ça nous donne, c'est peut-être qu'ils subissent davantage là, des effets néfastes, là, deux fois plus contre une consultation.
Je m'avance c'est une hypothèse d'un profane, on se comprend là. Peut-être que la résilience, qui est une façon de survivre dans l'existence là, pour toutes sortes de chocs qui peuvent nous arriver. Peut-être les notions de résilience peuvent être parfois plus difficiles ou il peut être avec des enfants qui vivent avec des déficiences intellectuelles. Est-ce que risque-t-il ou elle d'être marqué plus longtemps que le même enfant, toute chose étant égale? Qui n'aurait pas
d'avoir,
une déficience.
D'avoir moins de ressources ou moins de pour faire de stratégie pour faire face.
Capacité d'aller chercher de l'aide.
Effectivement. Ben, c'est une bonne hypothèse là, qu'il faudrait tester. On a besoin encore de clarifier est-ce qu'effectivement, ils ont plus de difficultés qui découlent de la bisexuelle. Et donc, une fois qu'on aura confirmé ça, on pourra aller voir là, qu'est-ce qui fait en sorte que ces difficultés-là sont plus importantes, puis là, d'avoir des meilleurs. Mais c'est une bonne piste, là. Ça nous... Merci. J'ajouterai ces
facteurs-là. Bien, je dis ça comme ça parce que s'ils sont dans l'immédiat plus vulnérables, on peut penser que ça peut être plus difficile. Sur le long terme, il y a des séquelles, des fois, qui font surface longtemps
exact.
Après. Et des fois, ça peut être difficile pour eux ou pour elles de relier ça à tel ou tel événement dans le passé.
Mm-hmm. Tout à fait. Chez les adultes, c'est un des facteurs de résilience, ce qu'on appelle la mentalisation, la métacognition, donc la capacité de recul sur ce qui est arrivé, de faire un sens des événements. Donc, on pourrait le supposer aussi comme un facteur de protection pour ces jeunes-là également. Il faudrait aller étudier ça, effectivement. Oui.
D'accord. Et dans tous ces dossiers, parce que là, en fait, ce que vous avez utilisé comme matière brute pour votre analyse, ce sont les cas qui ont été rapportés, où on peut, par rapport à une population témoin similaire en toute chose, sauf quant au handicap ou à la déficience intellectuelle, on peut supposer que c'est trois... on suppose pas, on constate que c'est 3,5 fois plus. On peut imaginer toute la pointe de l'iceberg ici, là, parce que c'est difficile de savoir sur chaque cas rapporté qui est probant, combien ne le sont pas. Hein? C'est ça qui est épeurant.
Bien, on le sait un petit peu. On a des études qui nous disent, quand on interroge les adultes, là, pas nécessairement qui ont une déficience intellectuelle, mais les adultes en général... seulement une personne sur 10 qui nous dit avoir subi des mauvais traitements dans l'enfance a été en contact avec la protection de la jeunesse. Donc, on suppose que nous, le 3,5, enfin, plus qu'on voit, ce serait... Bon, faut le multiplier là, pour les deux groupes, là, autant les enfants qui ont une déficience.
Tout à fait.
Non, pas, ouais. Donc, effectivement.
On peut penser que le fait que les sévices passent inaperçus peut être... Cette stratégie dégoûtante de la part des prédateurs de s'en prendre à quelqu'un moins susceptible de faire une dénonciation, on peut supposer que cette stratégie-là fonctionne jusqu'à un certain point. Alors que, donc, dans la réalité, le multiple est peut-être encore plus élevé.
Exact,
ouf, ça donne froid dans le dos, ça.
Oui.
Je suis désolé de vous dire ça, Mme Daigneault, mais vous faites bien de fouiller parce que ça ne se réglera pas tout seul.
Non. Mais on a quand même de l'espoir, là, avec, c'est-à-dire que mieux on connaît, puis plus on développe des interventions préventives d'éducation à la sexualité qui vont être adaptées. Là, c'est déjà un peu moins tabou pour qu'on puisse dire qu'il faut en développer, il faut former les gens.
Tout à fait.
Ça, moi, ça me donne espoir là, de voir la Fondation Marie-Thérèse, par exemple, qui développe des interventions.
Comme dans presque toutes les problématiques, il n'y a rien comme l'éducation pour remettre les choses en ordre. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On souhaite vraiment que votre étude soit porteuse et qu'elle trouve un écho là où elle doit en trouver un. Merci beaucoup.
Je le souhaite également. Merci à vous encore de l'invitation. Au revoir.